Bonjour à tous et merci pour votre présence, qui est une vraie belle récompense hein, pour ce projet qui, comme l'a souligné Marine, dure depuis 5 ans. On va vous le présenter rapidement. Bon, moi je suis Luc Robben, je suis professeur à l'Université de Bordeaux, je suis historien, je suis également musicien et je porte avec Solveig, qui va se présenter, donc ce projet sur l'histoire de la scène punk depuis 5 années. Je voulais juste remercier, on le fait jamais assez, Raphaël donc et l'Alcazar pour nous accueillir dans ce beau lieu. Et puis remercier aussi Marine pour tout le travail qu'elle a fait dans les contacts, les réseaux sur Marseille. C'est vraiment essentiel parce que c'est pas évident de solliciter dans un temps relativement réduit hein, les acteurs de cette scène justement. Donc merci Marine.
Moi, bonjour à tous, je suis Solveig Serre, je suis chercheur au CNRS et donc je porte avec Luc ce projet et aussi avec une équipe dont certains sont là aujourd'hui et que vous entendrez aussi parler. On est très très content d'être à Marseille parce que quand on a commencé le projet, on nous a dit le punk, mais il n'y en a qu'à Paris, à Rouen et éventuellement à Bordeaux. Et nous, on s'est dit, on n'est pas sûr qu'il n'y en ait pas ailleurs. Donc, on est très content de voir que vous êtes nombreux et qu'il y a bien une scène punk active à Marseille depuis longtemps. Alors, on va essayer d'aller très vite parce qu'on ne veut pas prendre de retard, puis on voudrait vraiment parler de Marseille, juste pour vous présenter notre projet, histoire que vous compreniez un peu mieux dans quel cadre on s'insère et ce qu'on essaie de faire. Donc, ce projet s'appelle PIND, ou PIND, ça dépend des gens, P-I-N-D, pour Punk is not dead, et il est consacré à une histoire de la scène punk en France depuis 1976. On peut admettre que c'est la date d'apparition du punk jusqu'en 2016, mais en fait, on va aussi au-delà, c'était pour la rime. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront, je vais passer vite là-dessus de vous rappeler ce qu'est le punk. On va dire qu'en 1976, on voit apparaître toute une multitude de formations musicales qui sont désignées par les médias ou qui s'auto-désignent elles-mêmes comme punk, qui est un mot du XVIe siècle anglais qui signifie vaurien, voyou, prostitué, en gros quelque chose de pas du tout recommandable. Et tous ces groupes ont quelque chose en commun, c'est la volonté de rompre avec la musique de la décennie d'avant, c'est-à-dire la musique progressive, écrite par des gens qui savaient très bien composer, des morceaux au format 20 minutes, les grands groupes de stade, etc. Et donc de rompre avec une musique qui revendique la simplicité. Vous voyez, enfin vous connaissez tous hein, l'extrait de Sniffing Glue. Tu prends un accord, t'en prends un deuxième, un troisième, et puis vas-y, tu fais ton groupe. Voilà. Alors en France, même son de cloche. On a pris une phrase de Star Shooter qu'on aime bien. Les Beatles, c'est un groupe de nuls pour ringards. Moi, j'en ai rien à foutre qu'ils crèvent, c'est des chiens. Donc c'est exactement l'idéologie du début. Alors en France, on a quand même la primeur du premier festival punk en Europe, ou enfin même dans le monde, qui a eu lieu dans les Landes, donc en août 76 à Mont-de-Marsan, et qui a regroupé tout un tas de groupes européens. Donc on peut discuter de quel genre de musique faisaient ces groupes, et américains, mais voilà, on a la primeur de ça. Donc quelques petites photos pour vous remettre dans l'ambiance. On aime bien ces photos parce qu'on voit tout le tuilage générationnel. On voit qu'il y a encore des gens qui ont les cheveux longs. Il y a un mélange assez de look assez sympa. Alors là, on est en 78, la fin des Sex Pistols. Pour toute une partie de la scène punk, quand on fait parler les gens, on peut considérer que le punk en fait serait mort en 78. En l'occurrence, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a plein d'autres formes de punk qui apparaissent après, dans des contextes politiques assez différents. Là, on vous a mis, on va très vite, hein, une photo de Thatcher et une photo de Reagan, avec l'apparition notamment de l'anarcho-punk, du hardcore, de tout ce genre de... Voilà, jusqu'à une nouvelle génération aujourd'hui, très hybridée, très imbibée des problématiques contemporaines, les COP, la défense de l'environnement, etc., le straight edge. Et pour finir, parce que je ne l'ai pas dit au début, le punk c'était au début quelque chose qui était vraiment, on va dire, dans les démocraties occidentales. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est étendu de manière plus large dans le monde entier. Là, je vous ai pris un article du Monde en 2012, où on est en Indonésie, je crois. Plus de 60 punks ont été arrêtés, frappés et emmenés de force dans une école située à 60 km de la ville d'Aceh pour y être rééduqués. Et on mesure que être punk en Indonésie en 2012, c'est pas exactement comme être punk sous la France de Giscard. Donc c'est aussi toutes ces différences-là qui nous intéressaient.
Voilà, donc le projet qui a démarré en 2014, il y avait trois ambitions initiales. pour nous, hein, au départ, à partir de nos institutions, donc CNRS, université, c'était d'abord casser les formes d'illégitimité de l'objet, c'est-à-dire finalement légitimer cette culture punk, hein, cette musique, cette culture punk. Le deuxième enjeu, c'était préserver une mémoire en péril, parce que bien évidemment, à la fois, on en reparlera, mais la question des archives est primordiale, et que ces archives, elles n'existent pas, elles sont pas conservées aux archives nationales ou dans les archives municipales. Il faut aller le chercher auprès des acteurs. Donc sauver une mémoire, et puis parce que aussi le punk est soumis à un régime de vie assez dur, et il y a beaucoup de gens qui disparaissent très jeunes, et que quand ils disparaissent, eh bien, en général leurs archives personnelles, elles vont à la benne. Donc cette mémoire, il faut la préserver, il faut la sauver. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis le troisième enjeu pour nous, c'était placer la musique au centre. Alors ça va peut-être vous paraître évident, mais quand on va, quand on discute avec nos collègues britanniques, par exemple, pour eux, le punk, c'est avant tout politique. Hein, c'est-à-dire que la musique, pour eux, c'est un peu à la marge. Nous, on considère que sans musique, il n'y a pas de punk. Hein, et que la bande son, elle est vraiment fondamentale. C'est elle qui amène l'émotion, c'est elle qui amène l'énergie, et puis tout le reste vient avec. Donc placer la musique au centre, c'est vraiment un enjeu pour nous, scientifiques, fondamental. Alors pourquoi faire ce projet? Éclairer les spécificités, l'importance, l'originalité de la scène punk en France. Alors je dis bien de la scène punk en France, c'est-à-dire pas seulement du français, mais ce qui s'est passé en France. On parlait de Mont-de-Marsan tout à l'heure, du festival. Bon, il y a des groupes anglais qui sont venus. Et ce qui se passe en France quand les groupes anglais viennent, ça nous intéresse aussi. Ou quand les Français s'exportent. Donc regardez un petit peu ce qui s'est passé dans l'Hexagone, la spécificité de ce mouvement, l'impact à l'extérieur du territoire national. Il y a aussi des groupes qui se sont bien exportés. Il y a des relations. Quelles sont les personnes relais? Comment tout ça fonctionne? Deuxièmement, montrer de quelle manière le punk constitue un prisme fondamental pour comprendre la société contemporaine, les manières de résister, d'innover, de dire non, de dire on va faire autrement. Voilà. Pour nous, le punk, c'est un prisme qui permet aussi de comprendre le monde dans lequel on vit. Et puis, proposer donc une lecture décalée de l'histoire de France à partir de ses marges. En montrant aussi comment 40 ans de punk, c'est partir du no future, vaguement nihiliste, hein, ce refus, aujourd'hui peut-être comment construire d'autres futurs. Hein, c'est-à-dire, il y a quand même une espèce de mouvement qui s'accomplit sur 40 ans. Les punks ne sont pas restés immobiles, le mouvement s'est réinventé, et c'est ce qui nous intéresse, cette dynamique. Hein, voilà, donc c'est ça, faire de l'histoire aussi.
Alors, juste, on fait un tout petit focus sur les archives.
Faire de l'histoire, c'est avoir des archives. Voilà. Il n'y a pas d'histoire sans archives. Hein, autrement, on est dans la fiction.
Alors souvent, on nous demande c'est quoi qui vous intéresse comme archive. Donc on a fait un petit panorama. Alors ça peut être des archives sonores, par exemple. Donc des démos, des choses qui ne sont pas éditées. Ça peut être des photographies. Donc ça, c'est en Corse, en l'occurrence.
La scène punk en Corse. Alors, on ira en Corse, hein, parce que c'est quand même un point aveugle encore de ce mouvement. Et on a commencé à identifier les réseaux. Alors, au-delà de Padovani, qu'on connaît tous, hein, qui était guitariste de Police, mais il y a une vraie scène punk en Corse.
C'est des flyers. C'est des documents produits par les groupes. Là, on est à Rouen. Donc, je ne sais plus quel membre de quel groupe qui a fait ça, mais en gros, c'est tous les gens qui ont joué avec les gens. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant.
Les connexions.
Voilà, toutes les connexions entre les gens. Donc, c'est quand même assez édifiant, ce genre de documents pour nous, pour travailler. C'est des caricatures. On est toujours en Corse.
La Corse.
Hein. C'est des fanzines qui sont rangées à la Fanzinothèque avec laquelle on est partenaire. C'est des graphes. Alors, tout ce qui est éphémère, ça, en l'occurrence, c'est un squat parisien qui a depuis disparu.
Les miroirs.
Donc, s'il n'y a pas de photo de ça, ben, il n'y a plus de traces. Voilà. C'est évidemment la parole des acteurs. C'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, parce que c'est les acteurs qui racontent le mieux quand même leur histoire. Alors les archives, on en fait quoi? Ce qu'on essaie d'en faire, c'est qu'on les amène au bureau. Voilà, on les traite. Alors là, on a une petite vidéo. Ça, c'est les archives
de
la Rock School Barbet
à Bordeaux. On a placé les revues par année. Et on est en train de faire un petit document où on va vous envoyer toutes les... toutes. Grossièrement, ce qu'il y a, quoi. Qu'il faudra après, je pense, ramener pour un tri, un classement plus précis.
Voilà, donc après, on les classe. et elles finissent dans des cartons étiquetés avec un inventaire, ce qui permet derrière d'aller vraiment travailler dessus ou de les numériser. Enfin voilà, une fois qu'elles sont rangées.
Quand on dit elles finissent, hein, c'est pour servir de base justement au travail d'histoire hein, et de mémoire. C'est un projet qui a identifié des chantiers principaux. D'abord, évidemment, le temps. Je parlais de 40 ans de scène punk. La question... on est parti un petit peu des paradoxes du punk. Hein, c'est un objet extrêmement paradoxal. Qu'est-ce que c'est ce mouvement qui dit il n'y a pas de futur et qui, 40 ans, est toujours là. 40 ans après, est toujours là. Donc ça nous a vraiment interpellés. Donc la question, c'est comment une culture musicale s'inscrit dans le temps. Quelles sont les transformations? Comment on peut périodiser? Est-ce qu'on peut identifier des vagues, des générations, etc. Hein, donc on travaille sur cette question-là, avec l'implication que ça peut avoir en termes de genre musical, de transformation des sons, par exemple, la manière de composer, des textes, des thématiques, mais aussi des looks. Alors évidemment, le punk de 77, il n'a pas le même look que le punk aujourd'hui. On travaillait sur le visuel, le sonore, le textuel, etc. L'espace, comment la culture musicale punk s'inscrit-elle dans l'espace? Alors, Solveig disait, mais on a tous entendu ce discours, ouais, en France, les punks, bon, c'était quelques Parisiens, quelques dandys, puis, enfin, non. En fait, depuis qu'on fait ce projet, il n'y a pas un endroit où on est passé, où on dit, dès 77, au village, on avait un groupe, après on est parti du pied des Pyrénées, on est allé à Toulouse, on a fini à Paris. Donc en réalité, c'est regarder un petit peu comment tout ça s'organise dans l'espace, avec aussi les spécificités régionales, territoriales, les formes d'hybridation avec la culture locale. Par exemple, le punk en Bretagne est sûrement pas vécu, ne dit pas les mêmes choses que le punk au Pays Basque, que le punk à Paris ou que le punk à Marseille. C'est évident, les problématiques sont pas les mêmes, les problématiques de vie, de résistance sont pas les mêmes, ce qu'on a à dire c'est pas la même chose. Bon, regardez aussi comment les acteurs circulent, et je parlais tout à l'heure de la porosité des frontières, ben oui, il y a aussi des Français qui se sont exportés, il y en a qui ont signé à l'étranger, il y en a qui tournent à l'étranger, qui ont eu un impact. Hein, faut arrêter de dire le punk, il s'est rien passé en France. On voit de plus en plus qu'en réalité, il y a une vraie scène en France depuis le début et qu'elle a un impact assez important et qu'elle est scrutée aussi depuis l'étranger. On va essayer aussi de travailler à comment cette scène en France, comment cette scène française, par exemple, elle est représentée aussi depuis l'étranger. Voilà. Les systèmes de représentation, justement. Comment la scène punk est-elle représentée? Comment s'est-elle représentée à elle-même? Donc travailler sur les médias, par exemple, comment les médias ont parlé de cette scène. Hein. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. C'est quelque chose qui nous semble très très important. Et puis, une entrée sur la violence. Alors, comment se construisent la spécificité des rapports sociaux au sein de la scène? Est-ce que c'est une scène violente? Est-ce que c'est une violence fantasmée, réelle? Et puis... On a identifié des sous-chantiers, hein, on travaille sur la question du genre, sur la question du rapport au corps, sur la question du rapport à la drogue, à l'alimentation, etc. Il y a tellement de questions passionnantes hein, pour discuter de ce qu'est le punk en réalité. Donc, la violence de la scène punk, réelle, fantasmée, racontée, proclamée, revendiquée éventuellement.
On a essayé de monter, mais pour l'instant, ça a pas, enfin, personne n'a rien mis dedans, donc à chaque fois, je fais un petit appel à commencer par moi. Ouais, je devrais. On a mis en place une base de données qu'on a voulu collaborative. Donc, en fait, n'importe qui peut rentrer des données sur son groupe, sur les groupes, les groupes qu'il aime. Voilà, donc c'est facile d'accès, facile à manier. Nous, on manque juste de temps pour le faire, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Alors la journée d'études, c'est la 30e en fait aujourd'hui. On en fait à Paris, c'est toujours des journées thématiques à Paris, par exemple la violence, le corps, l'esthétique, etc. Et on va en province, dans des villes ou dans des régions, ça dépend en fonction de ce qu'on trouve. Donc voilà, il nous reste, en fait c'est grand la France, donc on n'a pas du tout fini notre tour de France, c'était la première fois qu'on allait dans le sud-est, on n'a pas fait le nord de la France, donc on a encore pas mal de travail pour arriver à se faire une idée globale du territoire, et puis on vous parle même pas des dom-toms par exemple, qu'est-ce que c'est le punk à La Réunion, etc.
Alors ces journées, elles sont essentielles d'abord pour vous rencontrer, hein, pour avoir des témoignages, parce qu'on reviendra par la suite, et puis pour justement susciter, c'est un petit peu un appel hein, qu'on fait aussi pour récupérer de l'archive, qu'on peut numériser ou qu'on peut conserver si vous nous les confiez. C'est très important cette question des archives, hein, je le redis, parce que sans archives, on ne peut pas travailler. Hein, on ne va pas inventer l'histoire, il ne s'agit pas d'inventer l'histoire, il s'agit de l'écrire. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, donc comme disait Marine, en fait, ces journées, elles se construisent autour de communication entre guillemets scientifique, c'est-à-dire où on essaie de faire un peu des synthèses sur un état de, voilà, de questionner. Il y a aussi toujours des témoignages d'acteurs. Donc là, c'était peu importe à la Philharmonie en 2016, il y a Taï Luc, Eric Tanguy.
Il y a André-Marc Dubos à droite qui était l'organisateur du Festival de Mont-de-Marsan, enfin un des trois organisateurs. Voilà.
Donc on essaie de faire parler les gens. Souvent ils disent « Ah, on n'a rien à dire » et après on ne peut plus les arrêter. On fait aussi beaucoup de musique, donc c'est pour ça qu'il y en a ce soir, enfin qu'il y en a en fin de journée et ce soir, parce que bah, comme Luc l'a dit, on considère que la musique c'est le ciment de tout ça. Donc c'est important d'en faire, voilà, ça c'est tous les concerts qu'on a essayé de produire. On fait aussi des, là c'est un mur de fanzine, on essaie de faire des choses un peu, des performances autour de ça. C'était à la Fanzinothèque, ça je crois, de mémoire. On fait des performances, ça c'est de la peinture pendant une journée d'études justement sur les cultures visuelles. On fait des expos photos. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de convivialité. Alors, si vous voulez, je sais pas si vous y êtes allé, mais on a un site qui est normalement presque tenu à jour. Dedans, il y a toutes les captations sonores de toutes les journées qu'on a faites depuis la troisième, parce qu'on connaissait pas encore Dominique qui capte le son là. Donc tout est capté, on peut tout réécouter. Alors vas-y.
Alors Punk, c'est quoi?
C'est l'acronyme de Punk is not dead.
Punk pas mort.
C'est aussi le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Paris, Caen, Rouen, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, le Val d'Ajol, le Havre, Montbéliard, Montpellier, Marseille.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatouages et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs.
Ça parle de 77 et des années 80, 90, 2000, 2010. Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule souvent, mais toujours pour comprendre.
Bref, un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des musiciens. Une équipe terrible et tellement motivée. Do it yourself, just take a look. Voilà, merci.